Heureux de vous et je vous souhaite la bienvenue à notre fête annuelle. Mais avant de déguster le tagine, je souhaiterais vous dire quelques mots sur la situation. Les mobilisations dans le monde arabe et la chute de dictateurs détestés par leur peuple en Tunisie puis en Égypte sont les éléments marquants de ce début d'année 2011. Alors si nous devons saluer le courage des manifestants tunisiens et égyptiens qui, malgré la répression policière, ont continué à protester, il faut bien dire que pour l'instant, rien n'a encore changé pour les couches populaires. C'est l'ancien appareil d'État, l'ancienne armée qui dans les deux pays est à la manœuvre et tient les commandes pour le compte de la bourgeoisie locale et plus encore des grandes puissances qui ont préféré que saute le fusible Ben Ali et Moubarak afin que demeure en place l'essentiel pour elles, la domination de la bourgeoisie et le maintien au pouvoir de l'armée. Les masses populaires de ces pays ont gagné la chute des tyrans, mais pas encore celle de la tyrannie, et encore moins la fin de l'oppression sociale. Le fait le plus positif de ces mobilisations, c'est que la peur a changé de camp. La crainte des policiers, des patrons, de toutes les autorités locales a sans doute beaucoup baissé. Et c'est là que réside l'espoir, que les travailleurs et les masses populaires prennent conscience de leur intérêt de classe exploitée et qu'ils osent faire valoir leurs propres revendications sociales et politiques. Le départ des dictateurs est une bonne chose et il y a de quoi nous réjouir. Mais ce n'est pas encore la liberté, surtout pour les exploités. La liberté n'a pas le même sens pour un avocat, pour un cadre, pour un ouvrier ou un paysan pauvre de la vallée du Nil. Voyager librement, surfer sur Facebook, lire les livres de Nagui Massouf, ce grand écrivain égyptien, interdit et maintenant autorisé. C'est une bonne chose, mais ce sont des libertés pour une minorité de la population, la petite bourgeoisie intellectuelle, celle qui donnait le ton en Égypte contre Moubarak. Mais ce n'est pas la liberté pour cette moitié de la population qui ne sait même pas lire et écrire dans ce pays, un des berceaux de l'humanité où l'on a construit les pyramides et qui abritait les plus grandes bibliothèques de l'Antiquité, mais où, au XXIe siècle, une organisation sociale capitaliste fait que près de la moitié de la population est analphabète. Pour les travailleurs et les classes pauvres, la liberté, c'est celle de s'organiser, de se syndiquer, de ne plus être soumis à l'arbitraire des policiers et des patrons. Et cette liberté-là, les travailleurs devront la gagner contre les généraux qui sont au pouvoir. Les officiers ont été formés, éduqués, modelés par les dirigeants de l'impérialisme. Ils ont soutenu les armées et armé les régimes dictatoriaux de Moubarak, Ben Ali et bien d'autres. Aujourd'hui, les dirigeants, les grandes puissances, célèbrent tous la révolution égyptienne, la révolution tunisienne, avec d'autant plus d'emphase et de trémolo dans la voix qu'ils voudraient que les mobilisations s'arrêtent. Pendant des décennies, les gouvernements de gauche et de droite se souciaient comme d'une guigne de l'absence de démocratie. Mais ce qui leur a posé problème, c'est que les masses n'aient plus eu peur des tyrans et soient descendus dans la rue. Ils craignent ce que nous espérons, que les masses ne se contentent pas de la chute des dictateurs, mais qu'elles en viennent à se poser la question d'imposer leurs propres revendications et contester l'ordre social lui-même. Les États-Unis ont lâché les dictateurs en place pour essayer d'arrêter le mouvement rapidement, avant cette prise de conscience, avant que la classe ouvrière n'intervienne en tant que telle et non à la remorque des politiciens bourgeois. Ces derniers n'ont que le mot « peuple » à la bouche pour mieux masquer les différences irréconciliables entre les riches et les pauvres, entre la bourgeoisie et le prolétariat. Dans le passé, de nombreuses dictatures ont mordu la poussière sous les coups de boutoir des mobilisations populaires, sans pour autant que l'oppression et l'exploitation ne soient abattues. Les exemples fourmillent, de l'Iran à Haïti, mais c'est après la chute des tyrans que les vrais problèmes se posent. Pour que les masses populaires gagnent vraiment, il leur faudra se méfier de tous ceux qui lui disent que la chute du dictateur suffit et qu'il faut faire confiance à l'armée. Les généraux ne sont pas du côté des classes populaires. Pour que l'armée devienne l'allié des classes populaires,
Il faudrait que se désagrègent et que les soldats du rang se dressent contre leurs officiers. La bourgeoisie, elle, a une multitude de solutions de rechange après le départ de Moubarak. Son problème est seulement de choisir celle qui soit le plus en adéquation avec la situation. Mais les masses, en revanche, font leur apprentissage dans la lutte elles-mêmes. Mobilisés, ils peuvent apprendre très vite au cours des événements. Et c'est cela qui est indispensable que renaissent partout des pays représentant les intérêts politiques de la classe ouvrière, éduqués, trempés, capables de proposer une politique juste à la classe ouvrière dans un contexte de soulèvement. Il n'existe malheureusement pas de parti communiste révolutionnaire en Tunisie, en Égypte ou ailleurs en France. Mais sur le chemin de la lutte, les exploités peuvent aller très loin en comprenant qu'au-delà des dictatures déchues, il y a l'appareil d'État, il y a la classe possédante, il y a les grandes puissances impérialistes. Alors souhaitons que les travailleurs de ces pays, une fois les dictateurs partis, ne se laissent pas berner par l'unanimisme ambiant. En ce qui concerne la situation en France, tous les commentateurs se réjouissent de la hausse de la bourse et de la remontée des bénéfices des entreprises. Total, ArcelorMittal, PSA, Michelin, toutes ces grandes entreprises annoncent des bénéfices records après avoir supprimé massivement des emplois à Carlin, à Grandrange et aussi à Trébry, à Bordy, jusqu'à Toul où Michelin a carrément fermé l'usine Kléber. Les banques elles-mêmes, gorgées d'argent public, annoncent des bénéfices par milliards. La Société Générale a vu le signe multiplié par 6. Certains commentateurs prédisent même la reprise économique avec autant d'aplomb et d'assurance qu'une carte mancienne. En fait, la dernière crise économique qui a éclaté il y a plus de 2 ans est bien loin d'être résorbée et les mesures que tous les gouvernements ont pris pour y faire face ne font que préparer l'éclatement d'une prochaine crise encore plus grave que les précédentes. Pour faire face à la quasi-faillite des banques, tous les États dans le monde se sont endettés massivement, à tel point qu'ils sont en grande difficulté pour arriver à rembourser leurs dettes. C'est pour cela qu'ils taillent dans les services publics et font ainsi payer aux populations la facture de la crise financière. En France, le gouvernement a prévu de supprimer 16 000 postes dans l'éducation nationale à l'échelle du pays, dont 841 en Lorraine, l'équivalent d'un vaste plan de suppression d'emplois. Mais ne nous répète-t-on pas que l'éducation des jeunes est difficile et qu'il y a des problèmes dans les écoles? Cela n'empêche pas le gouvernement de diminuer la présence des adultes dans les établissements scolaires afin de garder une part plus grosse du budget pour ses amis les capitalistes et les banquiers. Comment s'étonner dans ces conditions que le chômage continue, mois après mois, de croître? Les chiffres officiels du chômage pour l'année 2010 qui vient d'être publié et annonce plus de 4 millions de chômeurs totaux ou partiels, 2,72 millions si l'on compte que les chômeurs à temps complet. Un chiffre qui est en hausse de 740 000 depuis mars 2008. Cette progression du chômage n'a rien d'un phénomène naturel. Elle est la conséquence du choix conscient de ceux qui dirigent l'économie d'augmenter la part de la bourgeoisie au détriment des classes populaires dans une économie stagnante. Ce qui est vrai dans notre pays l'est aussi à l'échelle de la planète et on recense pas moins de 205 millions de chômeurs. 205 millions de personnes réduites à l'inactivité alors qu'on manque de tout, d'hôpitaux, d'écoles, de logements, de transports publics, d'eau potable. On le voit par exemple avec ce qui se passe en Haïti, où rien n'a été reconstruit et où la population pauvre est fauchée par le choléra, une maladie qu'on sait parfaitement prévenir et soigner. Mais voilà, toutes les richesses de la planète étaient accaparées, stérilisées par une minorité de la population qui n'a qu'un seul but, faire fructifier son capital. Et elle gagne beaucoup plus d'argent en spéculant qu'en investissant dans une production utile à l'humanité. Oui, il faut mettre fin à la dictature des capitalistes sur la société. Oh, il serait vain d'espérer que les élections de 2012 changent quoi que ce soit au sort des travailleurs et des classes populaires. Si la gauche revient au pouvoir, elle fera ce que le patronat et le gouvernement, elle fera ce que le patronat veut qu'elle fasse, comme elle l'a fait dans le passé avec le gouvernement Jospin. Souvenons-nous, il avait privatisé plus que la droite et tellement déçu les électeurs de gauche que Jospin avait été éliminé du deuxième tour de la présidentielle. Tous les ténors actuels du Parti socialiste étaient membres de ce gouvernement de la gauche plurielle, qui comportait aussi un certain Mélenchon. Mélenchon se présente comme un homme neuf aujourd'hui, alors que c'est un ancien ministre qui est resté 31 ans membre de la direction du Parti socialiste. Aujourd'hui, il veut se servir du Parti communiste et de ses militants pour faire un score à l'élection présidentielle. Un score qu'il monnaiera avec le Parti socialiste en échange de sièges de députés ou de fauteuils de ministres. Les militants du Parti communiste ne peuvent qu'en être déçus et démoralisés, comme ils n'ont été quand la direction de leur parti a permis aux politiciens bourgeois Mitterrand d'accéder à la présidence de la République. Mais sans aller chercher dans un passé aussi lointain, regardez ce que fait la gauche en ce moment en Europe. En France, l'homme de droite Sarkozy s'est attaqué aux retraites. Mais de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, c'est le socialiste Zapatero qui vient de porter l'âge de départ en retraite de 65 à 67 ans. Le tout avec la bénédiction de Strauss-Kahn, le patron du FMI et un des dirigeants du Parti Socialiste. Alors, les élections à venir ne peuvent apporter que déception ou désillusion, car ce n'est pas là que se joue notre sort. Aucune élection n'a jamais changé profondément la situation des classes populaires, où que ce soit. Depuis des années, le rapport des forces entre la bourgeoisie et le monde du travail est défavorable aux travailleurs. Et nous avons encaissé recul sur recul. On y mettra un terme que par la mobilisation massive des travailleurs. La seule solution est d'inverser le rapport de force. Le mouvement contre la réforme inique des retraites, même si elle n'a pas gagné, a montré que les travailleurs pouvaient riposter ensemble, public et privé, jeunes et vieux, contre les sales coups du gouvernement. Et cela faisait bien longtemps que les travailleurs n'avaient pas réagi collectivement. Alors oui, si nous voulons que les choses changent, il faudra que nous fassions peur à la bourgeoisie. Il faudra qu'elle craigne de tout perdre. Comme lorsque les travailleurs ont coupé les usines lors des grandes grèves de mai-juin 36. La peur de perdre la propriété de leurs usines a poussé les patrons à céder sur une partie des revendications ouvrières. C'est pourquoi, pour le but futur, les travailleurs doivent se fixer des objectifs aptes à modifier réellement le rapport des forces avec le patronat. Pour mettre un terme à la chute du pouvoir d'achat, il faut l'augmentation générale des salaires et des pensions. Mais il faut surtout les garantir contre l'inflation par une indexation automatique de leur montant sur la hausse des prix. Et il est encore plus vital pour les classes populaires d'éradiquer le chômage en interdisant tout nouveau plan de suppression d'emplois et en partageant le travail entre tous sans baisser les salaires. Mais il y en a assez d'une partie des travailleurs se tue au travail tandis que l'autre se désespère au chômage. Répartir le travail entre tous impose de prendre sur les bénéfices des entreprises privées qui sont reparties à la hausse et d'exproprier les banques qui ruinent le budget de l'État. Cela impose que les travailleurs contrôlent les industriels et les banquiers, leurs comptes, leurs projets, bref, de mettre fin au pouvoir sans partage qu'ils exercent sur la société. Ces objectifs, nous les défendons quotidiennement, dans nos discussions, dans nos bulletins d'entreprise, dans nos activités publiques, et nous continuerons à le faire dans les mois qui viennent. Mais ces idées, nous les défendrons aussi devant tous les travailleurs de ce pays, disait le droit de vote ou pas, lors de la campagne des élections présidentielles qui aura lieu en 2012. Et c'est notre camarade, Nathalie Arthaud, qui aura la responsabilité de les représenter dans cette élection. Elle sera notre candidate et notre porte-parole pour dire que les travailleurs ne doivent compter que sur eux-mêmes. D'ici là, nous souhaitons que les travailleurs entrent en lutte pour créer le rapport de force qui seul permettrait de changer profondément notre vie quel que soit le gouvernement qui sortira des élections de 2012. Oui, il faut que nos idées soient présentes et vivantes dans les classes populaires quand celle-ci reprendra le chemin de la lutte. Et cela peut venir vite. Et nous pouvons être surpris, regarder ce qui se passe dans le monde arabe. D'autant que l'évolution de la crise peut accélérer bien les choses et bouleverser bien les situations. Alors, camarades et amis, nous avons du pain sur la planche, car ce qui demeure, c'est la nécessité vitale pour les opprimés de construire un parti vraiment communiste et révolutionnaire. Aidez-nous à le bâtir. Et je vous propose de reprendre, avant de déguster le tagine, de reprendre le chant de lutte des travailleurs. Je vous propose de chanter l'International.
La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous.